L'épopée du Béarn, une émission proposée et présentée par Francis Théo sur la voie du Béarn 95.10.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne d'Albret a joué un rôle prépondérant dans le conflit armé entre protestants et catholiques qui a déchiré le royaume de France. En 1572, des négociations ont été menées pour tenter une réconciliation. Il s'agissait de marier Henri de Navarre, fils de Jeanne d'Albret, avec Marguerite de Valois, sœur du roi de France Charles IX. Les négociations ont abouti. Le mariage a eu lieu le 18 août 1572. Mais 4 jours plus tard, ce fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Henri a été épargné en sa qualité de prince du sang, mais il a dû se convertir au catholicisme et il est retenu pendant 4 ans à la cour de France. Il parvient ensuite à s'évader, abjure la foi catholique et reprend la tête des armées protestantes. Une lutte longue et sanglante l'oppose pendant des années aux forces catholiques à travers tout le pays. Le 10 juin 1584, le duc d'Anjou décède. C'était l'unique frère survivant du roi de France, Henri III. Henri le Béarnais, un huguenot, devient l'héritier présomptif de la couronne de France. Mais Henri III ne peut accepter la perspective de voir un hérétique monter après lui sur le trône. Il envoie un messager, le duc d'Épernon, rencontrer Henri le Béarnais au château de Pau, avec pour mission d'obtenir sa conversion au catholicisme. Le duc se heurte à un refus. Sous la pression des catholiques les plus convaincus, organisés en ligue, le roi de Navarre va être déchu de tous ses droits à la couronne de France, au terme du traité de Nemours. Et son épouse, Marguerite de Valois, s'affilie à la ligue et organise la résistance contre son mari à Agen. Un affrontement majeur se dessine. Henri de Navarre écrit à la reine d'Angleterre, Élisabeth, pour lui demander son appui. Les Guises, grands animateurs de la Ligue, obtiennent le soutien du pape Sixte Quint et du roi d'Espagne Philippe II. Le roi de France décide de s'appuyer sur les catholiques radicaux. Henri de Navarre s'engage alors dans une série d'affrontements armés. Assiégé dans l'Irak par les troupes catholiques, il se réfugie à La Rochelle. Il prend cependant le temps d'envoyer des lettres à Corisande d'Andouens, sa maîtresse, et de passer quelques jours avec elle à Ajetmaux en mars 1586. Les combats reprennent en mars 1587, après que le futur Henri IV ait reçu des renforts allemands. Le 20 octobre, le Béarnais remporte la bataille de Coutras, au cours de laquelle le duc de Joyeuse, commandant des troupes catholiques, est tué, ainsi que 4000 de ses hommes. Cependant, Henri de Navarre ne peut exploiter son avantage, car il n'est plus en mesure de payer les mercenaires allemands. Dans le même temps, la Ligue accroît son emprise sur le roi de France Henri III. Celui-ci va desserrer l'étau de façon radicale. Il fait assassiner le duc de Guise à Blois, le 23 décembre 1588. Henri de Navarre parvient alors à conclure avec Henri III une alliance dirigée contre la Ligue. Les deux hommes réunissent leurs armées et marchent sur Paris, aux mains des ligueurs, pour y mettre le siège. Henri III est alors frappé à mort par un moine, Jacques Clément, le 1er août 1589. Henri le Béarnais devient ainsi roi de France. Mais les catholiques tiennent Paris et la plupart des grandes villes du royaume. Henri va devoir guerroyer encore pendant 5 longues années avant de monter sur le trône. Pour mener ces nouveaux combats, Henri s'appuie sur des renforts allemands, puis sur des contingents anglais et hollandais. Il assiège Paris en novembre 1589, mais il ne peut forcer la deuxième ceinture de remparts. Il doit se replier et il fixe sa capitale provisoire à Tours le 21 novembre. Afin de se rallier une partie des catholiques, Henri a laissé entendre qu'il pourrait abjurer la religion protestante. Ces rumeurs inquiètent ses co-religionnaires de La Rochelle. Henri va être reconnu roi de France par le Parlement de Paris. C'est un pas en avant. Il se lance alors à la conquête de la Normandie, ce qui lui permet d'assurer une liaison avec l'Angleterre. Il remporte ensuite une victoire importante sur les Ligueurs à Ivry. Puis il occupe Saint-Denis et Dammartin et se retrouve à nouveau sous les remparts de Paris. Mais au mois d'août 1590, des forces espagnoles commandées par Alexandre Farnèse viennent au secours des Ligueurs. Cette fois encore, Henri doit renoncer à entrer dans la capitale. Après 2 mois de siège qui ont poussé les Parisiens affamés aux dernières extrémités, jusqu'au cannibalisme. La ville est jonchée de milliers de cadavres. Henri recrute ensuite, au moyen de ventes et d'emprunts, de nouveaux contingents anglais et allemands. Il prend la ville de Chartres, puis celle de Noyon et celle de Louviers. Par contre, le siège de Rouen est un échec. Henri est ensuite blessé à Aumale le 5 février 1592. La guerre s'enlise et les États généraux réunis par les soins de la Ligue réaffirment une fois de plus que le roi de France doit être catholique. Henri franchit alors le pas. Il abjure le protestantisme le 25 juillet 1593. La lutte armée se poursuit cependant, mais Henri parvient, grâce à sa conversion, à gagner à sa cause des catholiques en nombre croissant. Le 27 février 1594, il se fait sacrer roi à Chartres. Il n'avait pas réussi à entrer dans la capitale par la force des armes. Il va y parvenir en négociant la reddition du gouverneur de Paris, le comte de Brissac, qui reçoit en contrepartie un bâton de maréchal et 200 000 écus. Après un simulacre d'assaut, le roi Henri franchit la Porte Neuve le 21 mars à 4 heures du matin. Les Espagnols encore présents quittent la ville. La situation est rapidement sous contrôle. Henri se rend à l'église Notre-Dame où il fait chanter un Te Deum. Cependant, le gouverneur de la Bastille a refusé de rendre la forteresse. Il va résister encore pendant 4 jours. Henri IV fait preuve maintenant de clémence et s'efforce de rallier à lui les Ligueurs. Les complicités obtenues pour entrer dans sa capitale lui ont coûté 482 000 écus. La Lorraine se soumet pour 900 000 écus. Bourges et Orléans pour 250 000 écus chacune. Mais tous les Ligueurs ne se laissent pas acheter. Le 27 décembre 1594, un jeune homme de 19 ans, ancien élève des Jésuites, tente d'assassiner le roi, qui n'est que légèrement blessé. Le pays est exsangue après plusieurs décennies de guerre civile. Le 5 juin 1595, Henri affronte encore les forces catholiques du duc de Mayenne, retranché en Franche-Comté et soutenu par les Espagnols. C'est la bataille de Fontaine française, perdue par Mayenne, qui va se soumettre. Cependant, les Espagnols, alliés des Ligueurs, parviennent encore à prendre Calais en 1596 et Amiens en 1597. Henri réunit difficilement l'argent et les troupes nécessaires pour mettre en œuvre le siège de cette ville qui se rend le 22 septembre. Un traité est finalement conclu avec les Espagnols à Vervins le 2 mai 1598. Henri IV recouvre Calais. dans le même temps où il combat les derniers îlots de résistance des catholiques intransigeants, Henri IV doit aussi négocier avec les protestants qui se sont organisés et manifestent leurs inquiétudes dans le cadre d'assemblées générales. Henri va promulguer l'édit de Nantes au mois d'avril 1598 et vaincre les réticences du Parlement de Paris qui refusait de l'enregistrer. L'édit de Nantes n'établit en aucun cas une parité entre les deux religions. La première des mesures qu'il contient est d'ailleurs le rétablissement du culte catholique partout où il a été interrompu. La liberté du culte réformé ne concerne que des lieux nommément désignés. Cependant, les protestants conservent de nombreuses places de sûreté. La longue marche d'Henri IV vers le trône de France lui a laissé bien peu de temps pour s'occuper des affaires du Béarn. Après être devenu le chef des armées protestantes à La Rochelle, il n'est revenu à Pau qu'à l'automne 1571, alors âgé de 18 ans, pour y demeurer jusqu'au printemps 1572, avec le titre de lieutenant général. Il a regagné ensuite la capitale en juin pour les cérémonies de son mariage. Ce n'est que 4 ans plus tard, après avoir été retenu à la cour de France et s'en être évadé, qu'il est revenu à Pau pour un bref séjour. En 1579, il a fait visiter ses terres à son épouse Marguerite de Valois. Il réapparaît en mars 1581, puis en juin de la même année. Son ultime passage à Pau est en date du 2 décembre 1587. Il avait alors 34 ans. Ainsi, de 1572, année de la mort de sa mère, Jeanne d'Albret, jusqu'à la sienne en 1610, le Béarn et la Basse-Navarre ont été administrés par des lieutenants généraux, des gouverneurs ou des vice-rois. Les missions de ceux-ci ont été centrées sur la gestion des affaires courantes, le maintien de l'hégémonie religieuse protestante et la défense du territoire, périodiquement menacé par les adversaires d'Henri. Et le Béarn a dû fournir des hommes et de l'argent pour soutenir l'effort de guerre huguenot sur les terres françaises. Le baron protestant Bernard d'Arros a assuré la lieutenance générale de la vicomté de Béarn au temps de Jeanne d'Albret, puis entre 1572 et 1575. Il s'est opposé notamment à l'ordonnance d'Henri de Navarre en date du 16 octobre 1572 qui visait à rétablir la religion catholique en Béarn. Il a été remplacé en 1575 par Henri d'Albret, baron de Miossens et de Coiraz. Le 4 janvier 1577, le futur Henri IV a investi sa sœur, Catherine de Bourbon, en qualité de lieutenant général du Béarn. Elle aura, par période, le titre de régente, avant de le perdre en 1592, dans des circonstances que nous allons évoquer, suite à son projet de mariage contrarié avec un cousin, le comte de Soissons. La première mission de Catherine, commencée en janvier 1577, va s'achever en novembre 1578. Elle est alors entourée d'hommes d'expérience qui sont Henri d'Albret, le baron d'Arros et le baron de Bénac. Celui-ci est chargé plus particulièrement de gérer les affaires de la Bigorre. Le baron de Gontaut-Biron, seigneur d'Audox, près de Navarreinx, avait été nommé par Henri de Navarre sénéchal de Béarn en 1574. Ceci malgré son rôle actif dans les rangs catholiques lors de l'intervention de l'armée royale en Béarn en 1569. Il est nommé lieutenant général en 1578, lorsque Catherine termine sa première régence. Catherine se retrouve dans ses fonctions de 1583 à 1587, puis en 1588. Elle doit notamment se rendre devant les États de Béarn. Ceux-ci sont alors entièrement aux mains des calvinistes purs et durs, lesquels ne se laissent pas manœuvrer facilement pour autant. Catherine rencontre des résistances, notamment lorsqu'elle demande des subsides exceptionnels pour répondre aux besoins fréquemment renouvelés de son frère, qui doit financer l'armée huguenote. Catherine est même amenée à engager une partie de ses bijoux. Elle enverra ainsi des diamants et des rubis à Genève, à l'attention de Théodore de Bèze, qui servira d'intermédiaire pour le recrutement de mercenaires suisses. Catherine est également conduite à solliciter des avances, des prêts, des dons auprès des communautés du Béarn, des riches marchands de Pau ou encore des Jurats de Nailles et d'Orthès. Durant les régences de Catherine, l'intégrité territoriale du Béarn fut menacée à diverses reprises. Ainsi, en 1585, les armées de la Ligue catholique se présentèrent aux frontières de la Vicomté. La sœur d'Henri n'eut d'autre ressource que de s'enfermer dans la cité fortifiée de Navarreinx, réputée imprenable, et d'y organiser la résistance, avec le concours d'Armand de Gontaut-Biron. Et, pour mobiliser la population, la régente ordonna des prières publiques ainsi que des jeûnes solennels. Catherine a dû instruire par ailleurs les réclamations des ministres du culte protestant, émus par le refus de nombreux Béarnais d'abandonner le culte romain. Les ministres rapportent qu'un grand nombre de gens se rendaient dans les pays voisins pour célébrer baptême, mariage, ou faire leur Pâque. Catherine préféra, semble-t-il, laisser libre cours à ces pratiques qui constituaient une soupape de sécurité contre des flambées de violence toujours possibles. Durant ces régences successives, la très rigoureuse calviniste s'est cependant autorisée à participer aux fêtes et aux plaisirs des cours à Agetmaux, chez Corisande d'Andouens, à Nérac, au château de Pau, sans que pour autant nulle aventure ne lui soit attribuée. De 1589 à 1591, la régente Catherine doit faire face à nouveau aux manœuvres et offensives des ligueurs catholiques et des Espagnols. Le baron de Lux et seigneur de Tardets avait déjà été un farouche adversaire de Jeanne d'Albret. Il proposa au roi castillan Philippe II, en mai 1591, un plan d'invasion consistant en une attaque aux deux extrémités des Pyrénées, conjugué à un assaut qui serait mené depuis Agen par les Ligueurs. Philippe II rassembla à Narbonne 5000 mercenaires et les Ligueurs avancèrent jusqu'aux portes de Toulouse, de Nérac et de Bordeaux. Depuis Navarreinx, Catherine de Bourbon parvint à mobiliser les forces suffisantes pour contenir les offensives. Elle fut en cela aidée par les difficultés rencontrées par Philippe II, obligé de concentrer ses forces en Aragon, en raison d'un soulèvement impulsé par un seigneur dissident, un certain Antonio Pérez. La régente du Béarn donna refuge à celui-ci et, à la fin de l'année 1591, avec l'accord de son frère Henri, elle mit à la disposition du contestataire une petite armée béarnaise de 600 hommes. À peine le col du Pourtalet franchi, les soldats calvinistes commirent des exactions contre les églises et le clergé du Haut-Aragon, avant d'être refoulés. L'offensive ayant fait long feu, Antonio Pérez se réfugia à nouveau à Pau. Les problématiques sentimentales et politiques allaient alors s'entremêler de façon très défavorable pour la sœur du roi Henri. Elle voulait se marier avec un cousin, le comte de Soissons. Henri IV s'y opposa formellement, car il voyait dans ce personnage un partisan peu fiable, voire un rival potentiel pour l'accession au trône de France. Henri IV fit arrêter le comte de Soissons qui s'était rendu à Pau à la rencontre de Catherine. Cet événement amena l'intéressé à abandonner ses fonctions et à quitter le Béarn de façon définitive à l'automne 1592 pour s'installer à Paris. Henri IV imposa alors à sa sœur quelques années après un mariage avec le très catholique Henri de Lorraine, prince héritier et duc de Bar. Cette union permettait au roi Henri de se réconcilier avec les plus durs de ses opposants et d'avancer ainsi dans la pacification du pays. Le mariage fut conclu le 5 août 1598. Il venait compenser opportunément la promulgation de l'édit de Nantes. Catherine, ayant refusé obstinément de se convertir au catholicisme, le mariage fut célébré dans des conditions très particulières le 31 janvier 1599 au cabinet d'Henri IV. Celui-ci convoqua l'archevêque de Rouen et lui demanda de prononcer l'union de Catherine et du prince de Lorraine. Il déclara que son cabinet était un lieu sacré et que sa présence royale valait toute autre solennité. Henri IV n'avait pas cédé aux objections formulées contre ce mariage mixte, tant par l'Église calviniste que par la papauté. Le Béarnais n'avait trouvé d'autre solution que de se retourner vers cet archevêque de Rouen, portant le nom de Charles de Bourbon, et qui était son frère bâtard. Le 25 février 1599, Catherine quitta Paris pour rejoindre la cour de Lorraine. Elle avait attendu la publication par le Parlement de l'édit de Nantes avant de se mettre en route. Son frère l'avait assuré qu'elle pourrait librement pratiquer sa religion en Lorraine. Mais les difficultés surgirent aussitôt et on essaya notamment de renvoyer à Paris les dames huguenotes qui l'accompagnaient. Le duc de Bar et prince de Lorraine Henri, mari de Catherine, fit l'objet d'une excommunication suite à son étrange mariage. Le pape Clément VIII lui adressa une lettre très dure, lui reprochant d'avoir fait entrer la peste de l'hérésie dans la maison de Lorraine et de menacer les fondements de celle-ci. Catherine était malade dès avant son mariage, atteinte par la tuberculose. Elle organisa cependant des fêtes à la cour de Lorraine et s'adonna à sa passion pour les bijoux. Elle s'endetta lourdement. Toutes les tentatives entreprises pour la convertir au catholicisme se traduisirent par des échecs. De son côté, la papauté, malgré les efforts conjugués et répétés d'Henri IV et du duc de Lorraine, refusa longtemps d'accorder la dispense qui était nécessaire en raison du degré de consanguinité des deux époux. Cette dispense fut finalement accordée en décembre 1603, mais elle était assortie de l'engagement formel des deux familles de parvenir rapidement à la conversion de Catherine au catholicisme. Quelques semaines après, Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, mourait le 13 février 1604 à Nancy, vaincue par la tuberculose. Elle fut ramenée en France pour être inhumée au pays des Bourbons, à Vendôme, aux côtés de sa mère Jeanne d'Albret. Amis béarnais, gascons et passionnés d'histoire, nous retrouverons le roi Henri IV dans le cadre de notre prochaine émission.
L'épopée du Béarn, une émission proposée et présentée par Francis Théo sur la voix du Béarn 95.10.